yeah, oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Woo!
Bonjour à tout le monde, vous êtes bien sur Studio Zef, The First Time I Met The Blues. On est à la 19e excusez-moi, émission.
C'est l'émotion.
Sur deux ans, ça fait beaucoup d'émissions, n'est-ce pas, Melior?
Ouais, bon après il y en a qui en font des quotidiennes, mais bon nous c'est une mensuelle, on se satisfait de cela.
Allez dire ça, Roxette.
Exactement. Les acharnés du travail. Oui, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se faire une petite émission vinyle. Voilà. Donc, il n'y a pas de thématique en particulier. Mais vu que Timo passe du temps quand même à aller fouiner, chercher des disques chez les revendeurs lors des vide-greniers et compagnie, voilà, on s'est dit, bah, on va piocher dans notre bibliothèque, enfin, dans notre discothèque, d'ailleurs. Et puis voilà, on a enregistré nos petits morceaux et puis on vous a fait une sélection sympa.
Et puis, c'est l'été, il fait chaud. Enfin, c'est bientôt l'été, il fait déjà chaud. Voilà, barbecue, saucisse et vinyle.
Évidemment,
bien sûr.
mais c'est clair et net. Voilà, bon, on commence avec Memphis Slim, le pianiste, et Buddy Guy. Voilà, l'album, c'est South Sardinian. Et en fait, cet album, il a été enregistré en France et produit par d'accord. un Français. Parce qu'en fait, Memphis Slim, lui, le pianiste, là, il vivait. C'était enregistré en 1972 et ça faisait déjà une bonne dizaine d'années qu'il vivait à Paris. Parce qu'il avait une carrière très importante en Europe, il jouait des fois à Londres et notamment beaucoup dans les clubs parisiens. Et donc en fait, en 1972, Buddy Guy et Junior Wells, qui eux sont en tournée avec les Stones, arrivent à Paris. Et donc voilà, Memphis Slim se dit, allez les gars, c'est l'occasion, on enregistre un album ensemble. Donc ça a été un peu préparé dans la hâte, mais vous verrez, le résultat est quand même assez sympa.
Oui, le résultat est assez sympa. Après, on entend quelquefois ça gâche pas le tout, hein, mais on entend quand même des petites choses des fois qui sont un peu mal mixées. Donc, mais le résultat global est assez intéressant.
Ouais, et de toute façon, Memphis Slim, qui lui était parisien maintenant, voilà, était très content de retrouver, de renouer avec des artistes de Chicago. Bah voilà, c'est parti. When Buddy Comes to Town. Don't you know?
Buddy Comes to Town. Voilà, c'est ça hein, le titre exact.
Ouais, exactement, ouais.
Voilà. Peut-être un petit clin d'œil au fait qu'il soit venu voir son pote à Paris. Voilà.
C'est probable. Mmh. Alors ça, c'était un morceau de 72 qu'on a écouté. Là, on va passer à un morceau de l'année suivante, 73, mais c'est du Chuck Berry. Voilà, c'est un morceau qui est issu de l'album Bio. Le titre de la chanson, c'est Aimlessly Drifting. Alors en fait, la traduction, ça serait, je dis serait parce que je ne suis pas sûre de moi, ça serait en errant sans but, quoi. Voilà, voilà un
oui,
peu
ça,
le...
Drifting, c'est dérivé. Donc.
Voilà, dérivé, aimlessly, c'est sans but, en fait.
Oui,
donc voilà, on peut penser que c'est ça, on peut
on
dire
peut
oui.
On peut penser que c'est ça. Est-ce que tu accordes la traduction? Oui.
Ouais, est-ce que je m'accorde 100%?
Attends, je demande au traducteur. On me fait signe que oui, en régie, c'est bon.
Ok, c'est bon, d'accord. Si en régie, on est ok. Donc ça, c'est un album enregistré par Chess. Et Chuck Berry, lui, il avait un surnom, c'était Crazy Legs, les jambes folles. Et je savais pas, j'ai découvert ça tout à l'heure. Pourquoi?
Ouais, parce qu'il avait l'habitude de bouger sa jambe quand il faisait ses petits riffs, etc. Surtout sur Johnny B. Goode, etc. Des riffs.
Il balançait
un peu comme
sa jambe.
Il balançait sa jambe, voilà.
D'accord.
Voilà, tout à fait.
Et Chuck
Berry. Puis il était assez quand même. C'était une bête de scène. C'était quelqu'un qui bougeait beaucoup. Il était assez vif.
Ouais, et on peut rappeler que Chuck Berry, lui, c'est quand même un des pionniers du rock'n'roll. Et il a commencé sa carrière dans les années 50. Et il a joué jusqu'à sa mort, en fait. Il est mort en mars 2017. Voilà. Donc
ouais,
c'est,
il est mort il n'y a pas très longtemps. Ouais.
C'est assez récent. Et lui, Chuck Berry, alors en fait, ça avait l'air d'être un mec assez cool quand même. Parce que un peu partout sur la planète, là où il devait jouer, il se trimballait pas forcément avec ses musiciens. Il se pointait dans le bar en face de la salle de concert. Il y avait généralement des musiciens qui gravitaient dans ces coins-là. Ils disaient « Ouais, toi, tu connais ma chanson, ma musique ? Ouais, t'es capable d'improviser ? Ouais, bon, bah allez, hop, ce soir, banco, tu joues avec nous. » Donc, c'était un mec assez cool, quoi. Enfin, quoique peut-être qu'il devait leur mettre la pression, mais...
Après, d'une manière générale, les musiciens américains, quand ils venaient en Europe, ou quand ils viennent toujours en Europe, ils recrutent du monde sur place.
Ouais, mais là, c'était à la dernière
faisait,
minute,
voilà.
Quand même, quoi,
ouais.
Tu vois, visiblement.
Ouais, ouais, c'est possible, ouais.
Voilà.
C'est fort possible.
Allez, c'est parti, « Aimlessly Drifting ». Thank you. Joseph
91.1
The first time I met the blues.
Aimlessly Drifting de Chuck Berry, un Chess de 1973. Donc c'était après voilà, c'était le nouveau Chess. C'était après la date fatidique de fin 69 ou quelque chose comme ça où Leonard Chess était déjà parti. Enfin voilà.
Il avait vendu sa boîte.
Voilà, voilà. Exactement, parce que c'est pas forcément un musicien qui est estampillé Chess Records, Chuck Berry, enfin. Voilà. Juste comme ça, voilà. Petite
info
petit
au passage.
Petit rappel. Ouais.
Voilà, donc on continue notre émission de vinyle. Hein, voilà, on passe que des vinyles ce soir avec Memphis Slim. Voilà, on a écouté le morceau tout à l'heure. When Buddy Comes to Town, c'était Memphis Slim et Buddy Guy. Là, c'est Memphis Slim, le pianiste, tout seul. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Going Back to Tennessee. C'est exactement le nom de l'album. Voilà.
Voilà, il s'est pas trop pris la tête, je crois. Memphis.
Memphis qui vivait à Paris dès les années 60 et il a même fini sa vie à Paris, il est mort en 88 là-bas et il a d'ailleurs été nommé commandeur de l'ordre des arts et des lettres par Jack Lang lorsqu'il était ministre de la culture, voilà, pour lui dire bah écoutez, vous avez fait du beau boulot en France, voilà, pour développer la culture en France et aussi à travers le monde.
Donc il était devenu français quelque part, quoi. Enfin,
bah il avait pas, non,
il parlait français, il achetait sa petite baguette de pain, tout ça.
Ouais, il portait le béret peut-être, ouais.
D'accord, ok.
Probablement.
C'est bon à savoir.
Et bah voilà, bah c'est parti, Going Back Tennessee. Going back to Tennessee, de Memphis Slim.
Ouais, encore une fois, lui, toujours. Ouais,
exactement.
Pour la deuxième fois.
Parce qu'on aime bien. Et donc là, on passe à l'harmoniciste Sonny Boy Williamson.
Alors, un autre morceau, hein, le 1 ou le 2 ? Le 2 ?
Non, c'est le 2. Ouais, c'est le 2. Le 2. En fait, il y avait un autre harmoniciste qui portait le même surnom, ou c'est lui qui porte le surnom d'un autre harmoniciste, voilà, ouais, qui est décédé en 1948. Et Sonny Boy Williamson, lui, il aimait, en fait, il aimait bien qu'il y ait une confusion, quoi. Qu'on sache pas si c'était lui ou pas lui, il était mort, enfin, voilà, quoi. Il a entretenu
la légende.
Voilà, jusqu'au bout. Donc là, en fait, on va vous passer un morceau qui est issu de l'album American Folk Blues Festival. En fait, c'était une tournée. C'était enregistré en 1963. Là, l'album qu'on va vous passer, c'était notamment un enregistrement allemand. C'était fait en Allemagne. Mm. Et en fait, c'était une grosse tournée d'artistes de blues. C'est ça. Enfin, il y avait. C'était une super.
Oui, c'était destiné à mettre en avant les artistes noirs américains de l'époque. Donc, il y avait.
C'était des pointures.
Voilà, il y avait tout le monde en fait. En passant par les femmes, il y avait même Coco Taylor, je crois, qui a participé. Enfin, tous les vieux de la vieille entre guillemets de cette époque-là, là. Qui ont tous, absolument tous participé. On tombe sur des perles avec des formations qui sont complètement inouïes, puisque là, c'est Sonny Boy Williamson avec Willie Dixon à la basse, Otis Pan
au piano
et un batteur dont j'ai oublié le nom, mais qui est moins connu. Enfin, vraiment des choses absolument exceptionnelles. Ça a été très documenté. Il y a beaucoup de choses sur YouTube. Allez, je dis le nom, tant pis. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses
sur
une plateforme de vidéo en ligne. Voilà, notre plateforme de vidéo en ligne préférée, celle où il y a le plus de trucs. Je vous invite à aller voir parce qu'il y a absolument tout le monde. Je ne sais pas s'il n'y a pas même Ella Fitzgerald qui fait des apparitions. Il y a eu plusieurs tournées dans plusieurs pays, donc ce n'était pas tout le temps les mêmes artistes. Et il y avait une espèce de mise en scène aussi assez particulière et... Voilà, enfin c'est vraiment intéressant. Il y a même des guitaristes qui jouent qu'on connaît pas trop, qui jouent tout seul avec la guitare, avec la voix cassée. Enfin c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment super quoi. Voilà.
Et ben c'est parti. I Don't Know de Sonny Boy Williamson.
Allez.
At 11:45, the phone began to ring. I heard someone say, Sonny Boy, and I know that was my name. Who called you? I don't know. I don't know. But I'm still trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. I met the Greyhound bus and I met the train. She wasn't on either one. I wanna know what was to blame. I don't know. You mean to tell me she ain't coming? I don't know. Trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. Telegram. Then she called me long distance, wanna know just where I am. But what? I don't know. I don't know. I just don't know. But I'm still trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. Thank you.
Sonny Boy Williamson, qui nous donne un petit peu de blues, un petit peu le blues.
Avec I Don't Know.
Avec Willie Dixon à la basse, Otis Pan au piano. Mm. Une formation assez légendaire, on va dire, qu'on n'a pas beaucoup revue par la suite. Voilà. Et ouais. Qu'on reverra plus jamais puisqu'ils sont tous morts.
Malheureusement.
Ouais.
Et là aussi, bah, on va évidemment vous passer un chanteur qui n'est plus là, Wilson Pickett. Le morceau, c'est It's Too Late, l'album Original Session. Voilà, original Session. Mmh. Hein, ouais. Voilà. Mmh. Et Wilson Pickett, lui, c'est un chanteur américain de soul. Mmh, voilà, ouais, c'est vraiment un des pionniers de la musique soul. Mmh. Et en fait, il a commencé, lui, comme chanteur de gospel. Et c'est dans les années... il a eu plusieurs groupes. Et dans les années 60, il s'est dit, bon, moi, je veux entamer ma carrière solo. Et là, le morceau qu'on va vous passer, It's Too Late, c'est son premier succès, véritablement. Mmh. Et puis, bah, de toute façon, on voulait se plonger dedans tout de suite. Vous allez voir qu'il y a de l'esprit. Joseph
91.1
The first time I met the blues.
It's too late de Wilson Pickett.
Mais it's not too late pour aller podcaster toutes les émissions de The first time I met the blues
et
sur le
autres.
Site de studiozef.fr et celle de nos camarades, bien évidemment.
Mmh. Ouais. Bon, on va faire une pause. On va vous laisser tranquille. Non, n'importe quoi.
On va vous laisser avec Frank Zappa. Allez, ouais, profitez, ouais. Les gars.
Profitez. Alors, je sais que toi, tu es particulièrement fan de Frank Zappa, Melior.
Ouais.
C'est un de tes artistes phares. C'est vraiment quelque chose qui t'a aidé à vivre.
Exactement. Ouais. Mais en fait, quand je comprends pas, Voilà, je me dis, je vais écouter Frank Zappa, je vais comprendre.
D'accord.
Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, j'avoue que au début, j'ai eu un peu du mal. Je comprenais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une musique qu'il faut comprendre. En fait, on peut avoir un sentiment de confusion quand on écoute Frank Zappa, mais en fait, tout est bien imbriqué parce que chaque idée. Enfin, chaque parole, quoi, chaque idée de texte est associée à une musique particulière. Et donc, vu que les idées changent assez souvent, et ben, t'as des styles musicaux qui s'imbriquent les uns dans les autres. Enfin, c'est hyper technique, c'est un véritable génie, en fait.
Oui, c'était des morceaux assez chiadés, comme on dit.
Ah bah, putain, j'ai envie de dire.
Il réfléchissait à tout, il pensait à tout. Bon, là, on va écrire.
Et puis, ces musiciens, c'était des virtuoses aussi, quoi, parce qu'il fallait.
Ah oui, bah, ils prenaient les meilleurs.
Il fallait gérer. Et même, ils géraient des orchestres. Symphonique, quoi.
Ouais, je crois en fin de carrière, oui, il a été capable de faire ça. C'est quelqu'un qui connaissait la musique parfaitement sur le bout des doigts. Il est un excellent guitariste aussi, mais après, il avait un côté très humoristique, on peut dire.
Ouais.
Où c'était quelqu'un qui s'est foutu de la gueule un peu de tout le monde dans ses paroles, de tous les méga groupes de l'époque, etc., etc. Il avait un côté déjante, donc ça lui a un peu porté préjudice. Dans le sens où on voyait Frank Zappa plus comme quelqu'un, comme un clown quelque part, que comme un immense musicien et surtout un des meilleurs guitaristes. Voilà, un des meilleurs guitaristes, tout court. Et surtout là, on va écouter un morceau qui résume parfaitement sa pensée, « Don't eat the yellow snow ». Donc je vous laisse imaginer pourquoi la neige est jaune.
Ouais, voilà. Et voilà, et ça en fait, Don't Eat the Yellow Snow, là, le morceau qu'on va vous passer, en fait, il fait partie d'une histoire qui est composée par quatre morceaux différents. Mais là, on va vous passer que le premier. Et en fait, c'est une chanson à propos d'un rêve, le rêve d'être un Eskimo, en fait. Et lui, dans les paroles directes, d'entrée, il dit I dreamt I was an Eskimo. Et donc, j'ai rêvé que j'étais un Eskimo. Et en fait.
Il parle de Nanook aussi.
Ouais, Nanook, c'est l'Eskimo. Et en fait, il raconte des histoires autour. Autour du monde des Esquimaux. Et en fait, Don't Eat the Yellow Snow, c'est la mère du petit Esquimau qui lui dit fais attention à la neige jaune, c'est là où les huskies, les chiens ont pu pisser, donc ne la mange pas. Quoi.
Ouais, voilà. C'est vraiment du. Enfin, bref.
C'est vrai. Oui, voilà, non, mais il raconte tout simplement une histoire. Et en fait, vous allez bien saisir, c'est qu'avec Zappa, comme on le disait, on est vraiment loin du schéma classique couplet-refrain, ça, c'est pas du tout ça, il suffit de se plonger dedans et de se laisser aller, et je vous invite à aller sur internet pour voir la traduction des paroles, parce que bon, même pour moi c'est pas évident de comprendre comme ça, mais quand tu les lis tu comprends, et du coup en fait ça t'éclaire tout de suite le message,
même,
quoi,
des paroles, c'était, on appelle ça du Frank Zappa parce qu'il utilise énormément
d'onomatopées,
d'acronymes, de choses qui sont plutôt connues aux États-Unis, un peu d'argot, etc. Donc c'était vraiment son truc. C'est vraiment pas évident en tant que Français, en tant qu'Européen et en plus de surcroît Français, de comprendre toute la galaxie de Frank Zappa. Mais il faut quand même souligner que c'est un des albums qu'on va passer, donc c'est Apostrophe.
1974.
Voilà, qui est le plus audible, vraiment. C'est celui qui est le plus accessible, en tout cas.
En tout cas, il a été disque d'or, hein, cet album-là.
Oui, voilà. Bah, c'est pour quelques ça, années parce qu'il plus a tard. Été... on sent vraiment des racines de rock, de blues, de jazz. Enfin,
il y a tout, c'est clair.
Assez rapidement. C'est le moins perché, si je puis dire.
Don't eat the yellow snow.
Cried. Nanook,
Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow.
Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial
strictly commercial
had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo.
Peek-a-boo.
And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said, peek-a-boo.
Peek-a-boo.
With a lead-filled snowshoes.
Snowshoes.
He said peek-a-boo.
Peek-a-boo.
He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe. And he hit him on the nose and he hit him on the fin. And he... that got me just about as evil as an Eskimo boy can be. And I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly
yellow snow.
The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion. Rub it! Again. Great googly moogly. I jumped up and down the chest of her. I injured the fur trap. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight, and he stood up and he looked around and he said, I can't see.
Do 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 do. Yeah.
I can't see.
Do 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 do. Yeah.
Oh, oh, with me.
Do do do. Yeah.
I can't see.
Do 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 do.
Dog do snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily. Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland, trying to figure out what he's gonna do about his deflicted eye.
And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written, on whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra, mile after mile.
Studio Zef
91.1.
The first time I met the blues.
Et voilà, c'était Frank Zappa. Quelle ambiance dans le studio. Non, voilà, bon, on va basculer directement sur autre chose. Il y a un autre groupe légendaire.
The Doors.
The Doors of Perception. Voilà, sur un album assez réputé. Un live qu'ils ont fait. Je ne sais pas si c'est un de leurs seuls lives d'ailleurs. Absolutely Live, qui s'appelle tout simplement.
Ouais, et là, on va écouter un medley. Alors, donc, il y a Alabama Song, Backdoor Man, Love Hides, 5-1. En fait, il y a tout ça dans la... Dans
oui,
ce
c'est
morceau,
ça,
là.
Repris avec le même riff à peu près. Enfin, c'est un medley qui est assez intéressant. Bah, on y va.
Do you feel all right?
Yeah.
Doors, Doors of Perception. Un morceau assez hard, je vous l'accorde. Mais bon, c'était les Doors en live. Voilà.
En vinyle.
En vinyle.
Bah alors, on enchaîne, hein, pour faire honneur à nos amis de Radio De Bleu. On dit on enchaîne. On enchaîne avec Eric Burdon. The Eric Burdon Band, voilà, c'est quand il était quand il a fait sa carrière solo, en
jeune.
Fait. Jeune aussi, ouais, quand il était jeune, parce que là il est moins jeune maintenant, hein,
ouais,
si on va
ouais,
voir des photos
jeune,
de lui sur internet, ça fait flipper, comme on dit. Voilà, donc l'album c'est Stop, il est en forme de panneau Stop d'ailleurs.
Ouais, il est en forme de panneau Stop. Ouais.
Sorti en
pochette assez originale.
En 1975, et là la musique en fait qu'il nous propose dans cet album, elle pourrait être qualifiée de hard rock heavy metal funk.
Ouais,
voilà.
Ah, d'accord. Ouais. Mmh.
Ouais, moi je trouve qu'il y a un peu de tout ça. Et franchement, hard rock, je trouve pas ça choquant de dire.
Oui, non, mais il a eu plusieurs carrières, Eric Burdon, bah, notamment avec les Animals.
Ouais, c'était au début ça.
Bon, c'était principalement des reprises de groupes américains, principalement. Hein.
Et on se rappelle bien de The House of the Rising Sun, voilà.
Donc Let Me Be Misunderstood, etc.
Un tube.
Ça avait même un côté, ça avait même des côtés un peu gnangnan de temps en temps. Donc ensuite, il s'est séparé des Animals à la fin des années 60. Et lui, il a eu l'idée de directement aller voir des musiciens aux États-Unis. Donc,
est-ce qu'il est anglais ?
Est-ce qu'il est anglais ? Tout à fait, il est londonien, plus précisément. Donc il est directement allé voir des groupes aux États-Unis et notamment War. Il a fait une très très grosse carrière et des très très bons albums avec le groupe War. Donc c'était que des blacks, hein, c'était au moins une dizaine.
Ouais.
Et voilà, je vous invite, on en a déjà beaucoup passé, mais je vous réinvite à aller écouter ce qui a été fait avec War, qui est tout simplement le point culminant de sa carrière. Et ensuite, effectivement, un peu plus tard dans les années 70, 75, il a quitté War. C'était Eric Burdon and War.
Ouais,
c'était son
groupe.
Il a
cessé de jouer avec eux.
Oui, il a cessé de jouer avec eux. Et il a fait des choses un peu plus hardos, on va dire.
Mm-hmm.
Et notamment là, avec le Eric Burdon Band. Alors là, on va vous passer quelque chose qui est fait en studio. Donc déjà, ça en voit quand même pas mal. Il y a des sons assez spéciaux, il y a beaucoup d'écho, il y a beaucoup d'énergie, c'est un nouveau truc quoi, qu'il a fait plus tard, mais effectivement c'est hard. Et en live c'est encore beaucoup beaucoup plus hard que ça ne l'est là, c'est même c'est un côté désagréable, enfin moi j'adore, mais il y a des gens qui sont incapables d'écouter du Eric Burdon de ces années-là, en live, parce que ça envoie un truc de malade quoi, ouais.
Et bien alors le titre du morceau c'est City Boy. Allez. Voilà, c'était du Eric Burdon. On vous avait dit que c'était un peu hard.
Un peu brutal.
Voilà, mmh. Ça a été le cas. Voilà, bon, bah, on achève cette émission où on a passé uniquement des vinyles. Alors, c'est vrai qu'on a passé des artistes qui ont déjà été diffusés dans notre émission, mais les morceaux, il y avait des inédits quand même pour notre émission.
Oui,
en tout cas,
c'est ce qui permet de découvrir d'autres choses aussi. Le support vinyle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas forcément sorties en CD ou alors qui sont moins disponibles en CD, paradoxalement.
Même sur le net, on trouve pas forcément tout sur le net.
Oui, ça dépend. Ouais. Ouais. Quand même, il y a beaucoup de choses, mais voilà, ça permet de voir les choses autrement.
Exactement. Et donc, alors, cette émission, évidemment, elle est podcastable sur le site de studiosf.fr. Vous cliquez dans les émissions en haut à droite, hop, vous passez à la page 2, The First Time I Met the Blues, et là il y a toutes nos émissions qui sont toutes téléchargeables. Vous retrouvez également les playlists, en fait systématiquement on met dans cette émission on vous a passé tel artiste.
Oui, voilà,
et
les playlists écrites, pas les playlists en MP3.
Ouais. Toute seule, non. Bah, si tu veux écouter de la musique, il faut que tu télécharges l'émission, donc il faut que tu nous écoutes parler.
Voilà.
Tout simplement.
Malheureusement, tu es obligé de nous subir.
Exactement.
Pendant une heure.
Cela dit, nous avons fait deux playlists, voilà, pour le coup, qui sont aussi téléchargeables sur le
site.
Sans
blabla.
Voilà, il n'y a pas de blabla. Et si vous avez envie d'écouter de la musique, vous ne savez pas quoi faire, hop, bah, vous allez sur notre page, et puis ça vous fait deux playlists, deux heures de musique sympa. Et puis surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On a une page Facebook aussi, The First Time I Met the Blues, et nous on est prêts à communiquer.
Ouais, tout à fait.
Allez, à bientôt.
Salut.